Alléluia. Ce matin, c'est un passage que je vais vous amener qui me parle beaucoup dans mon cœur. Ça me parle beaucoup, ce passage-là. Puis je vais vous parler de ça aussi. Une traversée. On est en train de faire une traversée. Le passage chez Marc 4, 35 à 41. Ça dit, on va prier avant. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous parles encore dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. C'est humblement qu'on vient devant toi, Seigneur, pour amener ta parole, Seigneur, afin que toi, tu puisses agir dans les cœurs, Seigneur, afin, Seigneur, que ton nom soit élevé au milieu de nous, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur, Seigneur. Amen. Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Pardon. Quand je regarde ce passage-là, ça me parle beaucoup, parce que un jour, j'étais à Rimouski, puis je travaillais comme agent d'assurance de dommages. Puis, j'aimais pas vraiment ça parce que c'est pas un travail qui me convenait. Moi, j'étais un travailleur, type travailleur autonome. Il faut toujours que je fasse mon horaire, mes affaires. Puis là, j'étais pris d'un bureau. Puis là, je regardais les voyageurs de commerce. Puis je me disais, ils sont donc bien chanceux. Donc. Ils sont tout le temps sur la route. Ils sont tout le temps dans les restaurants. Ils sont tout le temps dans les voyages. Je disais, Seigneur, j'aimerais ça faire ça, moi. Fait que je priais le Seigneur. Puis finalement, j'ai fait application, puis Dieu m'a exaucé. Fait que là, je suis devenu vendeur de relève pour une compagnie de chips. J'ai fait ça pendant 8 ans à la grandeur du Québec. J'étais tout le temps dans les restos, tout le temps dans les hôtels, tout le temps dans les restaurants, tout le temps dans les traversées. Les traverses, je connais beaucoup, les traverses du Québec. Hein? Matane-Godbout, Matane-Bécomo, Tadoussac, Saint-Siméon-Rivière-du-Loup, Rimouski, Forestville. Tout le temps des traverses. J'en ai fait des traversées. Mais au bout de la ligne, j'ai commencé à... J'étais tanné de ça, là. C'est fatigant du travail demain. T'es jamais à la maison. Les traversées, t'es tout le temps en train d'attendre. T'es tout le temps en train de... C'est long, ça prend du temps. Fait qu'un moment donné, je disais, « Seigneur, délivre-moi de ça! » Hein, on prie le Seigneur pour quelque chose, puis au bout d'un certain temps, on dit, « Seigneur, délivre-moi de ça! » Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, dans ma vie, de dire ça au Seigneur. Puis ici, dans ce passage-là, ça m'a frappé parce que dans ce passage-là, c'est vraiment une traversée. Une traversée, mais c'est un autre type de traversée. Dans ce passage-là, au verset 35, il dit, je l'ai-tu noté? Oui. Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Dans ce passage-là, ça a souvent été vu comme un type de la vie chrétienne. Nous, les chrétiens, on est passés de la mort à la vie, spirituellement parlant. Mais notre corps, lui, il va passer tranquillement jusqu'à temps qu'il rattrape notre espérance l'autre bord. C'est comme une traversée. Puis c'est une traversée de la vie chrétienne aussi. On s'en va, notre vie chrétienne, jusqu'à temps qu'on s'en aille avec le Seigneur, jusqu'à temps que nos yeux soient fixés sur l'autre rivage, où on va pouvoir goûter pleinement à cette vie-là. Amen. Aujourd'hui, on y goûte un petit peu, mais là, on va y goûter pleinement à cette vie-là. Fait que j'ai regardé et j'ai dit, ouais, c'est une traversée, c'est un voyage, mais c'est un voyage, premièrement, qui passe vite. Et que ça passe vite. Passons. Passons. C'est un mot-là, juste un mot-là, ça passe vite. Vous souvenez-vous, les croyants qui sont de plus longue date, quand vous êtes arrivés à l'Église? Et quand je suis arrivé à l'Église, j'avais 27 ans. Je rentrais à l'Église, je m'assisais en arrière. Puis quand la communion fraternelle, comme on a fait ce matin, là, quand quelqu'un voulait venir me serrer la main, là, je m'en allais, puis j'étais à la petite église à Saint-Eustache, puis je descendais par en bas, puis je remontais par l'autre bord. Parce que je voulais pas vraiment parler aux gens, puis j'étais trop gêné, puis trop sur le nerf pour faire ça. Puis des fois, je m'en allais dans mon char. Mais Dieu nous change. J'avais 27 ans, puis tranquillement, on s'est impliqué dans l'église, avec le club des jeunes, avec la jeunesse, avec les rencontres de théâtre, les rencontres maison. Puis aujourd'hui, on est rendu dans les plus vieux de l'église. 44 ans plus tard. Mais que ça a passé vite. Et que ça a passé vite. L'autre jour, ma fille, elle a 41 ans, elle dit, c'est décidé, je prends ma retraite en janvier 2044. Oui, là, j'ai hâte d'avoir, j'ai dit, as-tu bien compris? Elle dit, oui, je prends ma retraite en janvier 2044. Elle dit, mais ouais, 60 ans. Fait que là, moi, j'ai fait un calcul. Hey, j'ai dit, 71 plus 19, moi, 90, moi, là. Peut-être que je ne serai plus là. Ma traversée va peut-être être finie. Hey, quand on est rendu là, c'est à y penser. Hey, ça m'a fait réfléchir. Hein? Job 7,6, ça dit, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. » Plus d'espérance pour nos jours. Nos jours, ils s'évanouissent. Job 4,14, ça dit, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Ça va vite, la vie. Ça va vite. Ça va vite, il faut en profiter avec nos familles, nos enfants. Moi, ce que j'ai décidé dans les dernières années, depuis qu'on est revenus ensemble, depuis 3-4 ans, que Dieu nous a accordé la grâce de nous bénir encore un peu de temps, j'ai dit, je vais tout profiter de toutes les occasions possibles pour être avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis. Que le temps que je vais prendre avec les autres soit du temps de qualité, de l'apprécier chaque minute. Chaque minute. Puis le deuxième point ici, ça dit, ça peut être un voyage qui est mouvementé. Ça peut être un voyage qui est mouvementé. Le verset 37, ça dit, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Un voyage mouvementé. Qui pensait que notre vie serait un long fleuve tranquille quand on arrivera au Seigneur, puis tout irait bien jusqu'à temps qu'on s'en aille avec lui, tu sais, sur des nuages, puis... Mais même si on est croyant, c'est pas toujours ça. Il en va en avoir des tempêtes. Puis il va en avoir des tempêtes, puis il va en avoir de l'eau, des vagues en dedans, la tempête au dehors, puis les vagues en dedans. Les tempêtes, ça fait partie de la vie. C'est imprévisible aussi des tempêtes. Puis ici, la tempête dans ce verset-là, c'était pour montrer aux disciples la grandeur de l'autorité de Jésus, afin qu'il soit glorifié. Les tempêtes, souvent, ont un but aussi. Oui, des fois, les tempêtes arrivent, que ça n'a pas nécessairement rapport, mais des fois, les tempêtes ont un but. Tu sais, exemple, Jonas. Il a fait face à une tempête, Jonas. Hein, il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, puis la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Des fois, dans nos vies, il y a des tempêtes parce que c'est de notre faute. Même si on est croyant, des fois, on se met les pieds dans les plats, puis on dit, « Seigneur, sauve-moi! » Puis des fois, c'est de notre faute. Mais le Seigneur nous sauve pareil. Il nous fait apprendre des choses, puis il nous sauve. Il y a bien des fois, je suis certain que Dieu doit dire, « Oh, la voix! » Oh, la voix! » Il s'est encore mis les pieds dans les plats, puis il crie après moi, « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? » Mais vu qu'on exclut la personne qui parle, ça veut dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? » Les tempêtes, Jonas, c'était de sa faute. Job était dans la tempête. Ça dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Toute une tempête que Job a souffert. Toute une tempête. Tout lui a été enlevé. Tout lui a été enlevé. Toute une tempête. Mais Dieu voulait éprouver sa foi. Des fois, il va y avoir des tempêtes dans notre vie pour éprouver notre foi. Éprouver notre foi. La tempête de Acte 27. Acte 27. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. La tempête, lorsque Paul est allé, il s'en allait vers Rome pour aller témoigner de sa foi à l'empereur romain. Fait qu'il a subi toute une tempête, afin que... Mais sa foi, elle devait être mise à l'épreuve et il devait témoigner de sa foi. Et il savait que Dieu était avec lui et Dieu était avec lui au milieu de la tempête. Amen. Et souvent, Dieu est avec nous au milieu de la tempête. Puis la tempête, les tempêtes, des fois, sont là pour nous affermir, pour affermir notre foi. Les marins, comment est-ce qu'ils deviennent des meilleurs marins? C'est en affrontant des vagues. J'ai regardé un reportage sur le surf, puis eux autres, ils vont à des places là, qu'il y a des vagues, là, les plus hautes vagues au monde, puis eux autres, ils s'en vont aller affronter ça afin de devenir des meilleurs surfeurs. Un jour, j'avais invité Samuel Adzacordian à venir prêcher à l'église, puis il avait prêché sur « On gaspille nos épreuves ». Moi, je n'ai pas trop écouté. J'ai été obligé de prendre la cassette. Parce que sur le coup, tu sais, on gaspille nos épreuves en voulant dire, tu sais, c'est quasiment le fun d'avoir des épreuves, là. On gaspille nos épreuves. Parce que lui, il voulait dire que dans les épreuves, c'est là qu'on apprend. Mais humainement parlant, il n'y a pas grand monde de nous autres qui cherche les épreuves. Il y a des chercheurs de tornades, comme on voit des fois à la TV, mais des chercheurs d'épreuves, je n'ai pas vu encore. On gaspille nos épreuves qu'il avait prêché. Ouf! Mais par contre, Jacques, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Moi, c'est pas complet encore. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Fait que ça veut dire que je ne suis pas encore assez patient parce qu'il y a des mots que je quitte dans ça. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Les tempêtes sont là. Les tempêtes à l'extérieur, puis dans ce verset 35 qu'on a lu tantôt, il disait qu'il y avait les vagues en dedans. Il y a des vagues en dedans. Qui n'a jamais de vagues en dedans? Les vagues en dedans, c'est les doutes et la crainte. Les disciples, là, ils doutaient de s'en sortir vivants, puis ils avaient peur terriblement. Puis le doute et la crainte sont les deux meilleurs soldats de Satan. Ça, c'est les bons soldats de Satan, le doute et la crainte. Puis ça vient nous assaillir régulièrement, régulièrement, régulièrement. On va regarder un passage dans Matthieu 14. Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Le doute et la crainte. Le doute et la crainte. C'est les deux soldats de l'ennemi afin de nous faire douter, afin de faire défaillir notre foi. Même si on est au Seigneur, il va y en avoir des tempêtes à l'extérieur. Et il va y en avoir des vagues en dedans. Mais Dieu est plus grand que les tempêtes. Dieu est plus grand que les vagues en dedans. Amen. On a dit que c'est un voyage. La foi chrétienne, c'est une traversée, mais troisièmement, c'est un voyage en compagnie de Jésus-Christ. Amen. C'est un voyage en compagnie de Jésus-Christ. On n'est pas tout seul dans la barque. On est-tu content de ne pas être seul dans la barque? Le verset 36, ça dit, « Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Ils l'emmenèrent dans la barque. C'est important que Jésus soit dans notre barque. C'est important qu'il ne soit pas juste un spectateur dans notre barque. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais on ne voit jamais Jésus dans le barque. On ne voit jamais Jésus dans le vie. C'est à se douter, savoir s'il est dans la barque. Je vous ai dit tantôt que ce passage-là me touchait énormément, mais c'est ces deux versets-là qui me touchent. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître. » Ce qui me touche dans ça, c'est que les disciples sont d'un côté de la barque, puis Jésus il est de l'autre bord de la barque. Puis les autres sont dans la doute et la crainte, puis lui, il dort. Deux attitudes totalement contraires. Lui, il est dans le repos, il est dans la sécurité, pas d'inquiétude, pas de rien, puis les autres sont l'autre bord de la barque. Puis, moi, je pense à ce verset-là souvent, parce que c'est ça que je médite dans le moment. C'est comment que, en tant que disciple, je peux tranquillement là, m'approcher un petit peu plus de Jésus comme ça. Puis de devenir un petit peu moins inquiète. Un petit peu, tu sais, puis d'avoir un peu, m'accrocher un peu plus à ma sécurité, à son amour, à son repos, à être en paix devant Dieu. C'est ça que je suis en train de... C'est ça qui me touche dans ce verset-là. Les disciples s'agitent, le monde s'agite, la vie s'agite. Mais se rapprocher du côté de Jésus, puis tranquillement m'éloigner de toute cette agitation de la vie. Parce que ça va vite, la vie. Ça va vite, puis c'est agité. Comment que je pourrais faire pour aller chercher mon repos dans le Seigneur? Aller chercher ma paix en lui. Aller chercher ma sécurité en lui. Je parle souvent de mon jardin, mais jardiner, ça me fait du bien. Ça m'aide à décrocher de toute cette agitation. Toute cette agitation-là, parce qu'il y en a toujours de l'agitation, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Contrairement à la question des disciples qui disaient, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » C'était ça, là, sa question, lui. Eux autres. Oh, non. « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Tu sais, dans le même verset 38, il y a deux choses. Lui, il dort, puis les autres s'inquiètent. Lui, il dort, les autres s'inquiètent. Mais comment faire pour tranquillement se rapprocher? J'avais marqué, « Et la paix de Dieu... » qui surpasse tout intelligent, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On a besoin de cette paix-là. Moi, j'ai besoin de ça. Les inquiétudes. Je connais une de mes amies qui s'inquiète assez, elle s'inquiète de tout. Si on sort en char, elle s'inquiète de qui chauffe. Si on s'en va quelque part, elle s'inquiète du trajet. Elle s'inquiète de ouais, comment il va y avoir du trafic. Elle s'inquiète de... Puis moi, je faisais exprès quand on était à Québec, elle dit, « Michel, c'est-tu toi qui chauffe, là? » Je dis, « Oui. » Puis je chauffe vite, moi. Puis là, elle dit, « Mais les inquiétudes, ça grandit. Savez-vous ça, les inquiétudes, ça se développe. Ça grandit, ça en fait de plus en plus, ça se développe. Le proverbe 12:25, ça dit, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » L'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme. Ah, je ne l'ai pas marqué, lui, là-haut. J'ai sorti Luc 10, 41, ça dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Même dans les chrétiens, on s'inquiète puis on s'agite pour beaucoup de choses. Quand j'ai été jeune chrétien, puis j'en ai parlé la première journée que je suis arrivé ici, nous autres, on s'est agités, moi et mon épouse, ça n'a pas de bon sens, dans l'Église. On faisait beaucoup trop de choses, beaucoup, on était impliqués, ça n'avait même pas de bon sens. Mais au bout de la ligne, on s'agitait, on s'agitait, on s'agitait, mais au bout de la ligne, Dieu n'était plus là-dedans. Là. C'était juste des efforts humains. Juste des efforts humains. S'agiter, s'agiter. Le verset 40, Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous point de foi? Pourquoi vous inquiétez dans notre barque? Pourquoi s'inquiéter dans notre barque? Si on voyage avec Jésus dans notre barque ne coulera pas. Notre barque va se rendre à bon port. Le Seigneur, il l'a promis, ce qui a commencé en nous, il va le terminer. Amen. Ce qui a commencé en nous, il va l'amener à bon terme. Parce que premièrement, Christ est dans la barque de notre cœur, croyant. Christ, il est dans la barque de notre cœur. 1 Jean 4, 4, ça dit, « Celui qui est en nous, vous êtes, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Christ est dans notre barque. Comment notre barque pourrait chavirer si Jésus est à l'intérieur? Oui, il va y avoir des tempêtes à l'extérieur. Oui, il va y avoir des vagues en dedans. Mais on va être en sécurité, en repos, parce que Christ est là. Amen. Christ est là. Christ est dans la barque de l'Église aussi. Des fois, on s'inquiète pour l'Église. Dans l'Apocalypse, ça dit, « Il marche au milieu des sept chandeliers d'or des Églises. » Christ marche au milieu des Églises. Pourquoi on s'inquiète? Des fois, on s'inquiète souvent pour l'Église. Moi, je m'inquiétais beaucoup pour l'Église. Dans Deutéronome 23, 14, ça dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. » Amen. Quand j'étais à Saint-Jérôme, puis j'étais un pasteur, j'étais toujours à Saint-Quitte, puis je priais Dieu de m'envoyer des gens matures dans l'Église pour faire une bonne équipe. Puis avec les années, là, moi, je priais ça tous les jours, tous les jours. Puis Dieu, il a envoyé des piliers, il a envoyé des gens. Puis on avait une équipe extraordinaire que je pouvais m'appuyer, puis que ça me faisait du bien, puis ça m'emmenait du repos, parce que Dieu est fidèle. Dieu, il prend soin de l'Église. Dieu est fidèle. L'Église arrivera à bon port. Amen. Parce que c'est pas parfait, l'Église, mais c'est l'instrument choisi de Dieu pour le salut des gens. C'est l'instrument choisi de Dieu. Dans Matthieu 16, 18, ça dit, « Je bâtirai mon Église, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, qui n'est pas Pierre, mais qui est Jésus, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Amen. Il va y avoir des tempêtes dans l'Église. Il y a des courants aussi dans l'Église. Il y a des vagues en dedans. Il y a des vagues de doctrine. Il y a des vagues de pensée. Mais l'Église n'a pas à craindre. Jésus la soutient. Jésus la soutient. Amen. Christ aussi est dans la barque de la Providence. Tu sais, les gens disent, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Mais Dieu dirige tout. Et Dieu est en contrôle de tout. Et Dieu a un plan, et ce plan-là va s'accomplir. Amen. Il va y avoir lieu, l'enlèvement. Le retour de Jésus-Christ, ça va arriver. Dieu, le Seigneur, il va revenir juger le monde. Ça va arriver aussi, parce que c'est écrit dans sa parole. Matthieu 28, 18, ça dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Et nous, frères et sœurs, le Seigneur, il nous dit de ne pas craindre, mais de croire seulement. De ne pas craindre, mais de ne pas croire seulement. Marc 5, 36, quand Jésus parle au chef de la synagogue, puis les gens riaient parce que Jésus dit, « Ton enfant n'est pas mort. » Elle fait juste dormir. Tout le monde, il se moquait, puis tout le monde se moquait. Mais Jésus dit, ne crains rien, crois seulement. Et même aujourd'hui, si les gens rient du plan de Dieu, rient de l'Église, rient de votre foi, ne crains rien, crois seulement. Amen. Crois seulement, parce que c'est ça que le Seigneur nous a demandé. Ce voyage-là aussi, cette traversée-là, elle se fait sous le signe d'une délivrance miraculeuse. Amen. Le verset 39, ça dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. La tempête dans la vie des disciples, c'était l'occasion pour Jésus de montrer sa puissance. Amen. Puis il y a un temps dans nos vies où on a besoin de voir des délivrances miraculeuses. Amen. Tantôt, lorsqu'on prenait notre café, Sonia est en train de nous partager comment Dieu l'avait guéri d'un mal de dos lorsqu'elle était plus jeune. Miraculeusement. Et Dieu, moi je me souviens que le Seigneur, il a travaillé abondamment dans ma vie, miraculeusement, dans plusieurs situations. Notre fille, premièrement, est dans toutes sortes de situations. Je me souviens qu'un jour, je ne vous dirai pas tout pourquoi, mais j'étais déménagé sur la Rive-Sud, à Howick, pas loin de Châteauguay, d'une petite maison louée, puis je me cherchais une job. Puis j'ai fait plusieurs jobs quand j'ai quitté le pastorat à Saint-Jérôme, puis moi qui étais inquiète de tout, qui étais inquiète de toujours faire un travail, je pense que Dieu m'a conduit dans une dizaine de travails dans l'espace de 7 ou 8 ans, jusqu'à temps que j'arrive à Rimouski. Puis là, je me cherchais un travail. Fait que j'avais appelé les journaux, parce que moi, j'aimais ça appeler les journaux comme La Presse puis le Journal de Québec, parce que j'aimais ça faire des runs de journaux la nuit, tu sais, quand j'avais pas de travail, donc ça m'aidait à... Fait que là, j'appelle, puis ils me répondent pas. Fait que finalement, un de mes amis m'appelle, il dit, « Michel, voudrais-tu vendre des batteries pour moi? » Vendre des batteries, jamais vendu de batteries. Je sais juste que, où ce qui est placé dans le char, mais c'était tout sur mes connaissances. Vends des batteries. Pour un an, je vends des batteries. Ça va bien. Fait que là, j'ai dit, « Ah, on va m'acheter une maison à Châteauguay, tout va bien. » Je m'achète une maison à Châteauguay, et ça me coûtait 1350 par mois. Je pense que j'avais été trop fort sur la maison. Puis là, mon premier paiement n'est pas fait encore. Marc, qui m'appelle, il dit, « Michel, il dit, on va être obligé de se séparer de toi parce que mon comptable m'a appelé, puis le plomb, le prix est descendu. » Puis le prix du gaz a monté de même, fait que les dépenses sont beaucoup trop élevées pour les revenus. Donc, on m'a gardé juste mon garçon, puis sur la Rive-Sud, on va être obligé de se séparer de toi. Ben, j'ai dit OK. Mais là, je suis dans mon char. Puis là, les nerfs me pognent aussi, avec pas de job. Mon premier paiement n'est pas arrivé. De maison, il s'en vient, j'ai pas d'argent. Là, on fait ce qu'on fait, hein? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? On a besoin d'une délivrance miraculeuse. Puis là, je partais de Laval, puis là, je m'en venais à Châteauguay, puis hey, là, Seigneur, faut t'agir, parce que je suis faite à l'os, là, je suis faite. Il n'y a pas d'autre solution. Hein? Fait que le téléphone sonne, c'est le Journal de Québec. Il dit, « Monsieur Lavoie, êtes-vous toujours intéressé par une route de journaux? On en a une à la Prairie. » Qui s'ouvre, puis il dit, on a besoin de quelqu'un le plus tôt possible. Ah, j'ai dit oui. Hey, ça faisait un an que j'avais fait application. Un an après, la journée où je perds ma job, le Journal de Québec appelle. Ça reste de même. Là, je dis, Seigneur, ça va être pas si pire. Je vais pouvoir quand même, tu sais, de payer plus grosses affaires, mais il va m'en manquer un peu, mais c'est pas si pire. Dans l'après-midi, le téléphone sonne, La Presse. Hey, c'est quoi la probabilité que deux compagnies séparées m'appellent à la même journée que je perds ma job, un an après avoir fait application? Puis il dit, on a une route à Mercier, fait que si vous voulez prendre la route de nuit à Mercier, on aimerait ça, puis on aimerait ça vous commencer le plus tôt possible aussi. Il y avait un peu la même chose que l'autre me dit. Si ce n'est pas la main de Dieu, je ne sais pas c'est quoi. Et de nombreuses fois, que ça allait arriver. Parce que quand j'avais quitté Saint-Jérôme, le pasteur, je n'avais pas de... Moi, tout ce que je savais faire, j'avais travaillé dans les magasins d'alimentation, puis je ne voulais plus retravailler là-dedans. Parce que moi, je voulais un travail, tous des travails où je pourrais être plus autonome, pourrais être mon boss. Et Dieu a toujours pourvu, miraculeusement, d'une manière ou d'une autre. Amen. Et ce matin, Dieu, il nous délivre miraculeusement. Et le plus grand miracle dans notre vie, c'est le miracle d'une vie transformée que chacun de nous a reçu du Seigneur Jésus. Amen. Tantôt, Mike et Denise, ils disaient qu'ils allaient donner leur témoignage le 27. Mais le plus grand miracle dans une vie, c'est le miracle d'une vie transformée. Et c'est ça que Dieu veut bénir. Amen. Dieu veut bénir à travers cela. Ça dit, dans leur détresse... Oh, non, pas ça. Le verset 39, OK, il est encore là. Et le vent cessa parce que le Seigneur agit. Et il y eut un grand calme. Amen. Dieu, souvent, à travers des délivrances dans nos vies, veut ramener le calme, veut arrêter la tempête, veut nous faire du bien. Et c'est encore disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. C'est encore disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Le psaume 107, Israël a goûté à ça, la paix de Dieu. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dieu nous délivre souvent de tempêtes, de vagues en dedans, afin qu'on lui donne la gloire. Afin qu'on se réjouisse en lui, parce qu'on est ses enfants, et afin qu'on lui donne la gloire. Amen. Parce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu veut faire une œuvre dans chacune de nos vies, et est encore capable aujourd'hui de nous délivrer de tempêtes. Il est capable de nous délivrer de vagues en dedans. Il est capable de nous enlever nos doutes, nos inquiétudes, nos peurs. Parce que là, il est oui et amen. La vie chrétienne, en conclusion, c'est un voyage qui passe vite. C'est un voyage qui peut être mouvementé, avec des tempêtes au dehors, des vagues en dedans. Mais n'oublions pas, on voyage en compagnie de Jésus-Christ dans notre barque. Il est avec lui dans notre cœur. Il est avec nous dans l'Église. Il est avec nous dans la providence de l'extérieur, dans tout ce qui va arriver. Puis c'est un voyage aussi où Dieu peut nous délivrer miraculeusement de toutes sortes de situations. Amen. Pendant que les musiciens vont s'avancer ce matin, on va juste prier ensemble. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui sont dans la tempête dans le moment? Est-ce qu'il y en a qui sont dans la tempête? Dans la tempête, ça peut être les finances, ça peut être toutes sortes de tempêtes. Ça peut être le doute, ça peut être les peurs, ça peut être les craintes, ça peut être la maladie. Juste se lever ce matin, ceux qui sont dans la tempête. Juste se lever là où vous êtes. Puis ceux qui sont autour, juste imposer les mains, puis on va prier ensemble. Que Dieu fasse un œuvre. Parce que notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est puissant. Et notre Dieu veut faire un œuvre. Seigneur, merci ce matin. Tu dis que là où deux ou trois on est réunis, tu es au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, tu es au milieu de nous. Dans le psaume 107 qu'on a lu, plusieurs fois Israël était dans la détresse. Et plusieurs fois ils ont crié au Seigneur. Et tu les as exaucés. Et nous aussi, souvent dans nos vies, on peut être plusieurs fois dans la détresse et on pense des fois que c'est dans notre faute. Mais Seigneur, ce matin, on met cela devant toi, au trône de la grâce, parce que tu es le Dieu de toute éternité et tu es le Dieu qui répond à la prière. Et ce matin, je veux t'élever. Chaque personne qui s'est élevée, il s'est levé devant toi, non devant les hommes, mais devant le trône de la grâce, afin que tu puisses rencontrer le besoin, que tu puisses faire une œuvre dans leur vie, que tu puisses délivrer au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est en toi que nous mettons notre espérance. C'est en toi que nous croyons. Et ce matin, comme Jésus a dit aux apôtres, « Ne crains rien. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis avec toi. » Seigneur, fais une œuvre dans ces vies. Au nom de Jésus, pour ta gloire, afin qu'on puisse te glorifier, afin qu'on puisse témoigner ton nom devant les hommes, de la grandeur de notre Dieu. Alléluia.